La communauté dans la tête des entrepreneurs est fière de s'associer à cette émission.
Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL 89.1.
Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
Ça ne tombe pas du ciel en gougoun en ce moment, puisque c'est la première officielle de l'été. Kim est avec moi dans la tête des entrepreneurs. Bonjour Kim.
Bonjour.
Bon, alors commençons immédiatement cette première édition estivale de Ça ne tombe pas du ciel. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ben oui, ça va bien.
Ça fait longtemps qu'on s'avait vu. Je pense que la dernière fois qu'on s'avait vu, il y a peut-être 2-3 semaines, en fait.
Oui, et il faisait pas beau.
Il faisait pas beau.
À peu près la deuxième journée de beau temps qu'on a depuis le début de l'année. Alors, tout indiqué pour cette édition en gougoune.
Oui, effectivement. Depuis qu'on s'est parlé, il y avait eu mon lancement de livre. Donc, on annonçait, j'ai eu mon lancement de livre la semaine dernière. Ça s'est vraiment bien passé.
Bon.
Puis, c'est ça, je suis vraiment, vraiment contente de cet événement-là.
Et la balle continue de rouler parce que là, t'es à la co-animation de cette émission pour tout l'été.
Oui, effectivement. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vivre cette expérience-là avec vous pour tout l'été.
Oh oui.
Oui, c'est ça. Oui.
Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, nous, on va être là.
Kim est toujours présente.
Ben oui, et puis je tiens à saluer nos collègues de la Colombie-Britannique qui vont nous écouter. Désolé, on a pris une semaine de vacances parce que des fois, il faut qu'on se repose, mais on est de retour.
C'est ça. Moi, je vais commencer, je vais présenter mon invité aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, fais donc.
Oui. Écoute, moi, j'anime beaucoup de déjeuners causeries et j'anime beaucoup d'événements. Puis, j'anime des événements, il y a des invités qui me marquent plus que d'autres.
Ben oui.
Et Marie Laberge est une de ces invitées-là avec qui j'ai échangé beaucoup dans les derniers mois. Donc, Marie Laberge, c'est une entrepreneure, une investisseur et consultante qui fait beaucoup de formations en amélioration continue de la culture organisationnelle dans le domaine de la santé et de l'environnement. Donc, c'est une personne qui a une histoire bien unique à elle. Et j'avais le goût de vous la raconter, de vous la laisser parler, mais surtout d'aborder une thématique qui est très particulière, en fait. C'est surtout quand on est entrepreneur, on est tellement dans l'action, on prend jamais le temps de s'arrêter en tant que tel. On est dans l'action, mais qu'est-ce qui arrive si du jour au lendemain, on a un gros événement qui nous arrive, une mort ou une mort dans notre famille et tout ça.
Tu sais, quand l'élastique est tout le temps au bout,
voilà.
Là, la seule affaire imprévue peut le faire péter.
C'est ça.
Ben oui. D'ailleurs, un imprévu comme un retard de notre animateur vedette.
Genre du trafic, c'est super. Moi qui est habitué le matin, je me suis vraiment fait pogner. Comment ça va, Kim?
Ben oui.
Kim O'Clark qui a commencé ses débuts à la co-animation sans l'animateur.
Justement, je me suis arrangée avec l'élastique. M'arranger autrement
mais
par les imprévus.
C'était juste un test pour voir à quel point tu es capable de rebondir comme une entrepreneur. Alors, félicitations.
Bon.
T'as passé le test.
Donc, pour poursuivre.
Bonjour Marie Laberge.
Bonjour François. Ça va
content
bien.
De vous recevoir à l'émission. Merci d'être là. Ben oui, ça va bien.
Oui.
Mais je vous écoutais tout le long, puis.
Ouais, c'est ça. Essaye-toi.
Mais j'ai hâte de découvrir effectivement notre invité d'aujourd'hui, de ce soir.
Oui, fait que dans le fond, c'est ça, pour revenir juste à la thématique, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour se préparer au pire du jour au lendemain. Donc, Marie Laberge est avec nous et elle a vraiment une histoire bien particulière à ce sujet-là, puis je trouvais important de pouvoir la faire témoigner. Donc, moi, je sais pas, tu veux poser des questions?
D'abord, on va apprendre à connaître notre invité. Bon, qui êtes-vous, Marie Laberge?
Bonjour. Comme Kim le disait, donc je suis entrepreneur, investisseur et consultante. Donc, notre offre de service est au niveau du service conseil, de la formation en culture organisationnelle, amélioration continue, santé, sécurité et environnement. Et puis, donc c'est ça, c'est depuis 2012-2013.
que vous faites ça en accompagnement, dans le fond. Mais avant ça, vous aviez de l'expérience déjà dans le domaine de la vente, comme entrepreneur?
Tout à fait. Ben, j'ai eu un parcours plutôt, je dirais, atypique.
Comme plusieurs entrepreneurs, hein, souvent.
Ah, ben oui, ça me fait penser à quelqu'un.
On se lève pas un matin en disant « je vais devenir entrepreneur un jour ». Il y en a que oui, qui l'ont dans le sang, mais il y en a que ça arrive un peu avec les expériences de la vie puis la force des choses.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je vous dirais même au niveau des études, au niveau du travail, au niveau de la famille, ça a toujours été un parcours, j'ai jamais emprunté les chemins les plus faciles, mais toujours très enrichissant. Et notamment celui de l'entrepreneuriat qui a débuté autour de 2013, fort d'une expérience au niveau des entreprises, donc le service aux entreprises comme conseillère, comme gestionnaire aussi. J'ai eu le plaisir de desservir des organisations de toute envergure, de micro-entreprises jusqu'à des multinationales, travailler avec des gestionnaires, des travailleurs, des syndicats, donc une expérience très riche qui m'a inspirée pour devenir travailleur autonome en début 2013, dans ce domaine-là, notamment. Okay. Ouais.
Puis, tu as fait quoi exactement? Dans le fond, je parle sans arrêt de ton histoire, de qu'est-ce qui a marqué ton parcours. Donc, par rapport à la thématique, peux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis, qu'est-ce que tu as appris aussi de cette expérience-là?
Ben, en fait, l'expérience dont on parle, c'est celle de la rencontre de l'adversité lorsqu'on est entrepreneur. C'est sûr que ça peut arriver peu importe. Oups, quelqu'un. Oh, excuse. Ça peut arriver peu importe qu'on soit entrepreneur ou salarié. Mais une chose est certaine, c'est que.
En fait, ça arrive. Je veux dire, on a beau se préparer pour le mieux, il arrive beaucoup d'imprévus dans la vie d'un entrepreneur. Ça arrive tout le temps des imprévus finalement.
Tout à fait. Ben, celui dont on parle, c'est il y a une année, jour pour jour, donc j'ai eu un résultat médical qui m'a annoncé que j'avais un cancer, donc le cancer du sein. Et en fait, c'est que ça bouleverse beaucoup de choses. Ça bouleverse la vie privée, ça bouleverse aussi l'entreprise. Donc, ça remet en question et en perspective beaucoup de choses. Et une chose avec laquelle il faut composer comme entrepreneur, c'est l'incertitude. Et dans un cas comme ça, en tout cas dans mon expérience à moi, il y a eu beaucoup d'incertitudes.
Donc, parce que si on se rapporte, voilà un an et demi, vous étiez encore tout le monde en forme de démarrage, à quelque sorte. Ça faisait pas 15 ans que votre entreprise était là. Comme travailleur autonome, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de sécurité nécessairement d'emploi non plus. Je sais pas au niveau des assurances, qu'est-ce que vous aviez, mais tu sais, on se rend compte que c'est fragile finalement.
Ben, il y a deux axes, hein. Il y a l'axe de la sécurité financière, qui lui, peut se compenser par avoir des investissements, avoir une assurance salaire, avoir un coussin d'urgence important. Mais il y a aussi l'axe de la continuité de l'entreprise. Donc, quand on est travailleur autonome, l'entreprise, c'est nous. Et quand il arrive un événement comme ça, que ce soit la maladie, que ce soit un proche qui subisse quelque chose et qui fait qu'on est moins disponible, ben en fait, c'est que ça met en péril la continuité de l'entreprise. Donc, ces deux axes-là sont extrêmement importants. Ce sont des enjeux majeurs, surtout pour le travailleur autonome et la micro-entreprise. Parce qu'on est seul.
Même l'entrepreneur, s'il n'a pas pensé à un plan de contingence ou d'une façon, il peut se ramasser dans le pétrin si un problème de santé arrive ou peu importe qu'est-ce qui se passe dans sa vie.
C'est drôle parce que, oui, dans le pétrin, mais à quelque part, c'est fou comment les bons clients ils comprennent cette situation-là sûrement que tu as dû à leur dire puis que tu te disais, bon, et là, est-ce que je parais plus professionnel puis je dis j'ai des empêchements en cours de route puis tu repousses tout ou que tu leur dis clairement, ben regardez, il m'est arrivé
ouais, c'est ça,
je
me demandais, c'est quelle
prévu.
Carte qu'on joue? Est-ce qu'on joue la carte de la transparence en disant voici ce qui se passe ou on essaie de cacher ça parce qu'on veut pas trop perdre nos clients?
Moi, je pense qu'il faut agir vraiment avec transparence le plus possible.
Dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'y aller par la transparence, autant avec mon entourage que personnel qu'avec mon entourage d'affaires. ce choix-là, je suis contente de l'avoir fait parce que je me suis, en m'ouvrant comme ça, ben, je me suis donné accès à beaucoup, beaucoup de compréhension. La démonstration aussi que les personnes sont fondamentalement bonnes. Je vous dirais que les clients, ils ont des besoins. Donc, quand on peut pas donner de prestations, dans mon cas, c'est sûr que ça devenait difficile. J'ai quand même continué certaines choses, mais je pouvais pas être à mon top.
Il faut mettre nos énergies pour combattre, puis
se
refaire une santé.
Tout dépendamment quel genre de traitement on a. Dans mon cas, j'ai eu à avoir une chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et ça sur plusieurs mois. J'ai terminé en mars. Et c'est sûr que j'ai pas pu poursuivre l'entreprise comme d'autres problèmes de santé pourraient le permettre. Mais ce que j'ai continué de faire, un peu de formation, un peu de conférences, du réseautage, m'a permis de rester connectée avec ces gens-là et d'avoir des témoignages de générosité. Si je peux vous donner un exemple, je me rappelle, quelqu'un m'avait appelé, me dit, écoute Marie, on aurait besoin de toi pour telle situation. Et je lui dis, écoute, j'ai eu de la chimiothérapie et je suis sur les médicaments pour gérer les effets secondaires. J'ai pas le droit de conduire. Ils sont venus me chercher.
Wow. Ah, c'est fun.
Les gens sont vraiment fantastiques, là. Les gens m'appelaient me dire « J'aurais du temps pour prendre un café. Est-ce que ça te ferait du bien? » Non, les gens, ils sont très, très généreux.
C'est là que tu détectes aussi les gens qui, comme tu dis, sont vrais. On en avait parlé ensemble quand on s'était revus parce qu'elle avait les cheveux longs et tout ça. Mais elle est arrivée dans mon bureau avec une belle petite veste. C'est très beau. Les cheveux courts, ça te fait super bien. Fait que là, moi, j'étais avec toi. T'es rentré avec les cheveux courts, puis là, elle me dit ça, puis je pars à brailler.
C'est pas volontaire, ouais.
J'étais vraiment sensible, puis on s'est vraiment assis ensemble, puis je trouvais tellement que c'était une belle histoire à partager, puis je vais la traîner avec moi, justement, dans d'autres événements. Mais je le savais pas, là. Je me sentais mal en même temps, mais on en a parlé, puis comme elle dit, ça permet de voir les gens qui sont là pour les bonnes raisons, si on peut dire.
Allez-y.
Ce qu'elle rapporte là est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont hésiter à en parler parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que faut pas confondre la maladresse à la méchanceté. Les gens sont pas méchants. Les gens, ils font ça par maladresse et faut le prendre avec humour. Je pourrais vous raconter des anecdotes tantôt, mais je vois que vous voulez peut-être...
Non, mais j'allais dire, en fait, c'est une autre des raisons pour lesquelles on dit souvent, entourez-vous de clients qui vous ressemblent.
Oui, effectivement.
C'est de choisir nos clients, c'est un peu ça le loisir qu'on a comme entrepreneur ou travailleur autonome, de choisir des clients qui partagent nos valeurs. Alors, quand des choses comme ça arrivent, si on a bien choisi nos clients au départ, il me semble que c'est plus facile à dire, ben oui, t'es mon client, mais d'abord et avant tout, il y a une relation de confiance, tu sais, puis je vais me confier à toi, voici ce que je vis.
C'est aussi question de valeurs, hein. Quand on dit choisir nos clients, c'est qu'on partage des valeurs communes. Et j'ajouterais même nos partenaires. Donc, nos collaborateurs, nos partenaires, choisir nos partenaires parce que, justement, cette adversité-là peut arriver à n'importe qui aujourd'hui, là. Les statistiques le disent. Une personne sur deux, une maladie grave. C'est important.
Donc, justement, quand t'es sorti de mon bureau, puis qu'on avait commencé à en parler pour la première fois, j'en parlais avec ma mère, puis ma mère, elle me dit, toi, qu'est-ce que tu ferais si je mourrais le lendemain, puis tout ça. J'ai vraiment pas été capable de répondre à cette question-là. C'est fou comment qu'on y pense pas à qu'est-ce qui pourrait arriver, tout ça. Maintenant, toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu aurais à dire? Comment qu'on peut, ben, je le demande à François aussi, parce que je connais pas la réponse moi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mieux préparer? C'est pas quelque chose qu'on aimerait préparer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer mentalement à ce genre de choses-là aussi? En équipe, à deux, ben, ça va se faire surtout dans le contrat, dans l'entente, mais quand on est tout seul.
Ben, tout d'abord, Kim, au niveau financier, il y a beaucoup de gens qui ne prévoient pas ça.
Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est ta branche.
C'est une des causes principales des faillites qu'on voit au Canada, c'est les maladies. Alors, des fois, on dit, ben, j'ai pas les moyens d'avoir une ça coûte cher de l'assurance salaire, là, surtout comme travailleur autonome, là, tu sais, on assure, c'est du salaire, là, tu sais, c'est de l'intangible. Puis, sur toutes les statistiques que vous nous parlez là, ben, les compagnies d'assurance savent très bien qu'on a de fortes chances de réclamer. Mais, souvent, on dit, ben, j'ai pas les moyens de m'assurer, mais t'as pas les moyens de pas t'assurer non plus.
Ouais, c'est ça.
Fait que ça, c'est la première chose comme planification, mais ensuite de ça, vous l'avez vécu. Là, maintenant, vous en faites votre entreprise, c'est ce que je comprends. Vous coachez, vous accompagnez des entreprises à planifier ça un peu?
Ben moi, non, en fait, moi, je travaille vraiment à faire, oui, de la planification, mais plus organisationnelle et au niveau de la gestion de la santé, sécurité, de l'environnement. Mais si j'ai un conseil à donner, oui, il y a l'axe financier, comme vous disiez, assurance salaire ou fonds d'urgence important ou peu importe qu'est-ce qu'on décide de choisir sur cet axe-là, mais l'axe de la pérennité de notre entreprise, c'est vraiment de documenter nos processus d'affaires et de documenter nos processus de gestion, oui. Même si on est petit. Parce que les gens trouvent ça étrange. Je me rappelle quand je me suis partie en affaires, je disais aux gens, ben, j'ai écrit mes procédures administratives et tout ça. Puis le monde me disait, ben, franchement, t'es tout seul. Et puis je disais, oui, mais s'il arrive quelque chose, la vie va pouvoir continuer. Pas la business, mais on va pouvoir au moins la finir, la fermer.
C'est comme une Bible. On parle beaucoup des grandes entreprises, le font aussi. Ils écrivent la culture de l'entreprise dans un livre. Le fonctionnement, ça se fait dans les grandes entreprises, c'est une base. Mais quand on est travailleur autonome, on y pense pas. Mais moi-même, je conseille ça à faire, mais pour la gestion de communauté web, faut que tu écrives à la prochaine partout qu'est-ce que tu fais pour la prochaine qui arrive, pour pouvoir faciliter les modifications de qu'est-ce qui a été fait en cours, mais aussi comprendre qu'est-ce qui a été fait, c'est plus facile. Mais c'est vraiment une bible, puis on y pense pas, mais oui, effectivement, c'est important de le faire, là. Je le faisais plus quand j'avais mon associé, mais je l'ai jamais refait depuis que j'étais tout seul et tout ça. Mais effectivement, juste de dire comment qu'on fonctionne avec les suivis, à chaque fois qu'on maîtrise quelque chose, un suivi courriel ou un maîtrise de la facturation, comment qu'on fonctionne avec notre adjointe, tout ça, on l'écrit. Tout à fait. Puis on met ça de côté, puis c'est comme un document, une bible. Puis effectivement, quelqu'un qui, s'il nous arrive quelque chose, ben on peut dire, ben va voir, là, moi c'est comme ça que je fonctionne, puis tout ça.
Est-ce que c'est possible de penser, peut-être pouvoir, moi c'est ça qui me venait en tête, de dire, ben advenant un cas de maladie comme ça, où est-ce qu'on sait qu'on va être arrêté pour X nombre de semaines, de mois, de se trouver un compétiteur ou quelqu'un qui est dans le même domaine que nous pour refiler des clients temporairement, c'est-tu quelque chose qu'on peut envisager?
Tout à fait. Ben moi, en fait, toute cette expérience-là m'a permis des réflexions. Et puis, je suis justement en plein chantier, là. Donc, je travaille sur trois axes. Le premier axe, qui est au niveau de ma pratique de consultation, je suis en train de construire un groupe de travail collaboratif. Et chacun, on a des expertises qui sont différentes, mais des expertises qui pourront être transférables, advenant le cas où il y arriverait quelque chose. Donc, plus de pérennité pour nous-mêmes, plus de pérennité pour les clients qui font affaire avec nous. Donc, on est en plein chantier à ce niveau-là. Je travaille aussi, quand on m'a présenté, on parlait d'investisseurs. Donc, je suis en train de travailler aussi sur cet axe-là. Donc, intégrer ou reprendre une entreprise où là, je travaillerai en équipe et tout ne dépendra pas de moi. Donc, c'est vraiment dans ce profil-là là, que je m'oriente.
Ça peut être rassurant aussi, peut-être, quand on fait de la prospection de clients, de dire, écoute, tu me choisis, je suis travailleur autonome, mais sache que j'ai un plan de contingence. S'il arriverait quoi que ce soit pendant le mandat, voici ce que j'ai prévu que mon entreprise. Tu as l'air structuré, tu as l'air organisé quand tu présentes ça.
Tout à fait. Puis même, je dirais qu'il doit y avoir des clients qui ne choisissent pas des travailleurs autonomes sans le dire, pour ces raisons-là. Mm-hmm. En se disant, bon, s'il arrive quelque chose, non, ça me tente pas, c'est trop un gros mandat, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça, c'est important là, de le présenter, ouais, dans notre offre de service.
De le réfléchir d'abord, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un peu comme un plan d'affaires, il faut prendre le temps de le décanter, voir. Puis d'ailleurs, j'ai jamais vu ça dans un plan d'affaires, mais on s'entend que ça devrait faire partie d'eux, là. C'est un genre de section dans le plan d'affaires qui serait
contingence.
Plan de contingence.
Puis je vous dirais que dans mes formations, j'ai souvent cette illustration-là. Je fais circuler une bille de plomb et une balloune. Et ce que je veux illustrer par là, c'est que c'est pas parce que c'est gros qu'il faut que ce soit lourd. Donc oui, un plan de contingence, ça peut apparaître une grosse affaire, mais ça peut être extrêmement léger. De dire avec quelle banque on fait affaire, comment on et où et de quelle façon on paie tout ce qu'on doit, hein, nos payables, nos clients, qui reste à payer, où est notre CRM, comment est-ce qu'on le gère. Donc, de documenter toutes ces choses-là pour que s'il arrive quelque chose, quelqu'un puisse prendre la relève.
Dans le fond, c'est là qu'on peut dire que le CRM ou un document, un échelle de ce type-là devient un peu utile.
Ben, c'est la mémoire.
Un CRM, oui, c'est ça, pour la mémoire. Donc, dans le fond, moi, c'est sûr que... Moi, je te connais bien, Marie. Toi, t'es une fille très cartésienne, très réfléchie dans son processus. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont un peu à l'air, à gauche, à droite. J'ai essayé peut-être 5-6 CRM, 50 millions de façons de documenter mes affaires. C'est un peu broche à foin, je le fais. C'est un peu broche à foin. J'ai pas la réflexion de vraiment m'arrêter puis le faire à 100%. Ça demande vraiment un effort de plus de mon côté. Donc, j'admire vraiment ceux qui le font. Puis justement, oui, je comprends très... Je reviens à l'idée du CRM, de mettre les suivis. Chaque fois que tu appelles quelqu'un, ben mettre une note si ça a été réglé ou pas. Donc là, je comprends à quel point que si il arrive quelque chose à la personne, ben qu'une autre personne embarque là, puis elle peut voir exactement qui doit appeler, qu'est-ce qui reste à faire exactement pour faire avancer un dossier. Donc oui, mais quand on est tout seul, puis qu'on n'est pas cartésienne comme toi, Marie, ben il y en a plein comme moi qui se retrouvent un peu à travailler plus tard, puis à s'arranger vraiment pour, même si on est malade, à se tuer pour arriver à la fin d'un dossier.
C'est principalement ce que je fais, hein, que dans mon métier, c'est de conseiller les gens à structurer leur gestion en processus. Donc, que ce soit des travailleurs autonomes, de la micro-entreprise, si les gens ont besoin de conseils, ça va me faire plaisir, là. Donc, c'est quelque chose qui est déjà intégré pour moi.
On parle de CRM, mais tu sais, peu importe votre façon de travailler, l'important, c'est de le documenter.
C'est ça.
Dans ce document-là. Puis dire, voici le mode d'emploi de mon entreprise. Voici comment je gère mes opérations au quotidien. Peut-être que, comme vous dites, c'est pas obligé d'être un document là, de 300 pages, puis qui est fait là, avec des heures innombrables, mais au moins quelque chose de base, là, une ou deux pages, qu'on dit, ben voici les urgences à régler, puis les choses qui reviennent constamment.
Oui, puis voici... qui peut s'en occuper aussi.
Les personnes ressources.
C'est
également.
Ça. Ouais. Et puis, où se situent les choses? Ça, c'est important. Donc, si j'ai un logiciel, justement, pour gérer les clients, où ils se situent?
Ouais. Les mots de passe, les accès.
Les mots de passe, les accès. C'est vraiment très important de tout documenter, ces choses-là. L'idée, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Et de prendre des notes au fur et à mesure, et tranquillement, pas vite, vous allez construire votre système de gestion, finalement.
Moi, j'ai déjà embauché du personnel dans le passé, puis je le faisais faire. Si tu crées un nouveau poste en entreprise, exemple, tu engages une adjointe ou peu importe, bien, de faire ce travail-là par l'adjointe pour être capable, devenant que, justement, tu perds ton employé, parce que on parle de travailleur autonome, mais ça peut être quelqu'un qui démarre puis qui décide d'embaucher quelqu'un pour prendre la vitesse, prendre la croissance. Mais la journée où tu perds ton employé pour X raisons, le processus de formation, c'est long quand même.
Oui.
Fait que si au moins tu as un document décrit pendant ta formation, tu peux prendre des notes, dire, ben voici, si j'aurais à former quelqu'un d'autre demain matin, ça serait ça mon plan de formation. Fait que ça peut faire partie de ce plan de contingence-là, d'avoir un genre de document de formation, puis les tâches sont bien indiquées. Qui fait quoi dans l'entreprise?
Documenter nos processus, c'est pour faire face à l'adversité.
Mm-hmm.
Donc, l'adversité, c'est pas juste la maladie, juste la mort. Ça peut être, comme vous le dites, l'entreprise qui grossit. Ça peut être, l'entreprise qui est en péril, donc qui va pas très bien économiquement, donc faut éliminer des ressources. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on est confronté à se poser la question, advenant le cas où il arriverait telle chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc, et d'où l'importance de documenter qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour... c'est ce qui va constituer principalement les processus essentiels de l'organisation.
Du développement durable, organisationnel, entrepreneurial. On s'assure que tant qu'à travailler fort sans compter les heures sur quelque chose, qu'il y ait au moins un maximum de chances que la pérennité soit là s'il arrive un problème en cours de route. Très exact. Intéressant. Et vous en faites des formations, vous vous accompagnez, de quelle façon on peut se renseigner si on veut en savoir davantage?
Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est plus du management au sens large pour les organisations en termes d'amélioration continue. Donc, on peut m'écrire à info@marielabergeconsultante.com ou aller sur mon site internet marielabergeconsultante.com. Et si jamais les gens ont besoin de discuter avec moi parce qu'ils sont une micro-entreprise, parce qu'ils sont travailleurs autonomes, ils voudraient comprendre un peu qu'est-ce qu'ils devraient faire, ben là, ils peuvent écrire et consulter le même site, communiquer avec moi et ça va me faire plaisir.
Merci beaucoup de votre temps. Vous restez avec nous pour
le... Oui, reste avec nous pour discuter le prochain sujet, oui.
Excellent. Donc, Kim, peut-être on va lancer le sujet tout de suite, après ça, on va prendre une courte pause puis on va revenir.
Parfait.
De quoi on parle après la pause, Kim?
Ben, écoute, j'ai décidé de parler, en fait, dans les derniers jours, il y a un sujet qui revenait souvent dans le groupe, dans la tête des entrepreneurs, à propos du fameux logo de démarrage. Il y en a beaucoup dans le premier mois qui veulent dépenser des gros sous. Bon, il y avait des chicanes à propos de ça. Puis ça m'a donné l'idée de discuter, c'est quoi les premières dépenses? Sur quoi qu'on doit se concentrer quand on démarre, pourtant dans le premier mois de démarrage d'entreprise, où qu'on met l'argent.
Combien
on
doit mettre.
Donc, on peut peut-être discuter,
ouais.
C'est quoi les premières dépenses qu'on doit faire en démarrage? Qu'est-ce qui priorise, qu'est-ce qui doit être mis en priorité, en fait?
Puis comme c'est la première émission, ben on va prendre un petit moment pour parler de la communauté, parce que c'est pas tous nos éditeurs qui la connaissent, cette communauté-là qui s'appelle Dans la tête des entrepreneurs, que
oui.
Tu as fondée. Kim, t'as fondé ça quand, cette communauté-là?
Je me rappelle plus exactement. Je pense que ça fait un an et demi. Quelque chose comme ça. J'avais démarré ça parce que c'était en propos de mon livre, en fait. J'avais lancé une discussion, je cherchais où m'aligner avec mon livre, puis j'avais envoyé un message sur mon infolettre. J'avais appelé ça Dans la tête d'une entrepreneur au début. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait environ 100 personnes d'un coup qui se sont abonnées à ça, j'ai dit, ben non, je peux pas avoir 100 personnes qui m'aident sur mon livre, c'est ben trop. Fait que j'ai changé ça pour Dans la tête des entrepreneurs, puis après, ben, ça a grossi. On
alors,
est rendu à plus de 8200 personnes.
Ouais.
Puis c'est très bien monnayé. Je suis vraiment fière de l'animation, surtout avec Christine Jobin qui m'aide énormément avec ça.
Donc, une communauté, c'est un groupe Facebook, en
oui.
fait. Les gens peuvent aller poser des questions. Il y a de l'entraide qui se passe.
Effectivement,
là.
Énormément d'entraide.
Donc, tous des entrepreneurs de différents niveaux. Il y en a qui démarrent, il y en a qui sont expérimentés.
Oui, c'est vraiment autant de démarrages. C'est comme un cyber mentorat parce que la personne qui pose la question, elle doit aussi s'attendre qu'il va y avoir des personnes qui ont moins d'expérience qui vont répondre à ça. Donc, ça demande de pas faire face au jugement, mais de prendre
ouais,
les réponses puis d'y aller à une réflexion par elle-même. Là, oui, il y a certaines personnes qui vont dire des choses qui sont complètement hors de la traque, mais il y en a d'autres qui vont dire des choses qui ont bien du sens. Donc, ça aide à pas se fâcher, mais à prendre ça comme mini-consultation.
Excellent. Ben merci du topo. Ça met ça au clair
ça
pour tous nos auditeurs. Et là, à chaque semaine, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sujets qui reviennent dans
oui.
la communauté. On va en débattre avec nos invités. Puis
voilà.
Excellent. Donc, merci beaucoup. Merci encore, Mme Laberge.
C'est un plaisir.
On
merci.
Est très content de vous avoir avec nous. Courte pause et on vous revient dans une minute.
89.1. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV.
Puis débranche donc tes appareils électroniques non utilisés. C'est bien mieux.
Jusqu'à 40% de la consommation annuelle des appareils électroniques se fait quand ils sont éteints. Un message d'Hydro-Québec.
Qui achète juste des appareils certifiés Energy Star?
Recherchez le symbole Energy Star. Il certifie les appareils les plus éco-énergétiques. Visitez mieuxconsommer.ca. Un message d'Hydro-Québec.
La communauté Dans la tête des entrepreneurs est fière de s'associer à cette émission.
Alors, de retour à Ça ne tombe pas du ciel, je vous répète que François Bégin est avec vous, avec ma co-animatrice pour le mode Gougoune de l'été, c'est Kim Auclair. Et on a Marie Laberge qui est avec nous pour la deuxième portion de l'émission où on va débattre un sujet, en fait, que Kim a noté sur la communauté Dans la tête des entrepreneurs, qui est les fameux logos. Quand vous démarrez, vous voulez vous faire faire un logo, combien ça coûte, combien qu'on devrait payer, où est-ce qu'on devrait faire faire ça? Il y a toutes sortes de réponses, puis là, j'ai vécu personnellement, quand j'ai démarré une entreprise dans le passé, en fait, j'ai payé 1 500 $ dans le passé pour un logo, OK? C'est sûr que l'entreprise qui a fait ce travail-là, il y avait un travail de recherche, ça m'a présenté un beau petit document avec différentes possibilités. Et dernièrement, j'ai eu un autre projet que j'ai démarré et j'ai payé 5 $ pour un logo avec des services comme Fiverr.com. C'est sûr que là, dans tous les débats qu'on peut ouvrir en parlant de ça, c'est que bon, c'est sûr que t'encourages pas l'économie locale quand tu payes 5$ en Inde ou peu importe.
Je me suis toujours demandé, en fait, c'est sûr que j'ai étudié en graphite, donc j'ai énorme respect pour ceux qui font d'images de marque. Tout ça.
C'est de l'art, là. On s'entend que c'est de l'art.
C'est essentiel d'avoir une belle image. Mais des fois, je me demande, Colin, on se casse-tu la tête pour rien, dans le sens qu'on peut démarrer sans logo aussi, juste en affichant son nom, ou il y a là, avec une petite police. C'est sûr qu'il faut pas que ça ait l'air... d'un fichier Word ou de t'en faire de 3D.
Tu vois, Kim, tant qu'à faire ça, puis le faire avec une police boboche là, sur Excel,
c'est
là,
ça.
Pourquoi ne pas le faire faire à 5$ avec Fiverr, puis
ouais,
vous
peut-être.
Avez votre logo?
Mais en même temps, je comprends, oui.
Ben, j'aimerais connaître l'avis de Marie Laberge, qui est toujours avec nous.
Oui.
Qu'en est-il des logos? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on va donner un 5$ à n'importe qui, ou qu'on fait une... Tu sais, on donne un gros montant à quelqu'un qui étudie ici, puis
Ben moi, je vous dirais que je suis partagée entre les deux points de vue. Mon expérience à moi, c'est je trouve que ça dépend du positionnement qu'on veut donner à notre entreprise. Ça dépend des compétiteurs qu'on a aussi dans le marché. Donc, si on compétitionne contre des gros, il faut se comporter comme un gros.
Oui.
Alors, moi, j'ai choisi le chemin mitoyen. Alors, j'ai fait affaire avec quelqu'un que je connaissais bien. En qui j'avais confiance et c'est pas la grosse boîte, mais comme moi, c'est quelqu'un qui se positionne bien quand même par rapport à la compétition et qui m'a offert un produit fantastique que plusieurs personnes m'en parlent. Si les gens vont sur mon site internet.
Ça, c'est bon, ça, quand on a des commentaires, c'est un bon signe.
Tout à fait. Les gens aiment mon logo.
Wow.
Mais moi aussi, dans le fond, le logo de Nubity, ça a été long à faire. On a eu plusieurs versions qui se sont améliorées avec le temps. C'est moi-même qui avais commencé à faire le premier logo. Puis après, j'ai d'autres personnes qui l'ont refait. Je respecte, mais ma question, c'est plus dans le sens, quand on démarre, dans la nouvelle entreprise qui démarre, mais n'a pas nécessairement l'argent à mettre sur ça, puis... Je comprends. En fait, je suis partagée. Moi aussi, j'ai un énorme respect pour ceux qui font ça. Mais des fois, tu sais, je me dis, est-ce que l'entrepreneur devrait plutôt lâcher prise pendant... Surtout le premier mois, là, le premier mois qui se lance, d'aller chercher des clients, justement, pour se concentrer à aller chercher des clients au lieu de mettre 2 000 $ sur le logo ou quelque chose comme ça.
C'est sûr que la personne, l'entrepreneur, va faire vendre. T'sais, un logo, ça peut faire vendre,
ouais,
un beau
sûr,
site web,
sûr,
tout ça. Mais
clair.
Moi, ce que je dirais, c'est arrêtez-vous pas de démarrer une entreprise si vous n'avez pas un logo,
ah,
si vous n'avez pas un beau
site
web.
C'est surtout ça, mon point de vue.
Ouais.
Parce que je pense qu'on est tous d'accord que l'image, la marque... ça, c'est vraiment important. Puis, ça dépend du budget qu'on a aussi. La marque, ça, c'est super important. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est vraiment à 100%. Mais effectivement, mon point de vue, c'était que empêchez pas de faire rouler votre entreprise si vous avez pas le logo parfait. Moi, mon site kimonclair.ca, c'est lettre à mort. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de modifications là-dessus. Donc, maintenant qu'il faut que tu lâches prise, là, ton argent, ben, il faut que tu la fasses à avancer autrement, là.
Puis je suis d'accord parce que, dans le fond, quand on démarre, souvent, on n'a pas encore... Oui, on sait exactement où on va aller, mais c'est le marché aussi qui va nous dire... nous donner certains indicateurs. Alors, de réfléchir à un logo, à une image, un peu plus tard, ça peut être bon aussi.
Oui.
Parce que moi, j'aurais pas été capable de faire le logo que j'ai aujourd'hui. Il y a de ça 3 ans. Là.
Avec toute la signification qu'il peut avoir. Puis, tu sais, il y a un travail à faire. Faut le déposer aussi, là. Mm-hmm.
Exact.
Oh, oui, parce que les logos, des fois, là, c'est pointu. Il y a des petits détails, mais quand tu te le fais expliquer, tu te... Wow! Mais quel travail intellectuel en arrière de cet art-là.
Oui, effectivement.
Moi, je m'étais fait dire qu'un logo qui va bien durer dans le temps, tu l'aimeras pas nécessairement au début. Ce sera pas comme un coup de cœur. Si t'as un coup de cœur, un gros « wow » au début, puis que c'est bien flash, ça se pourrait que tu tannes de ton logo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'étais fait dire ça dans le temps.
Que t'apprends vraiment le sens.
Ben, oui, exactement. Faut prendre le temps de le gérer, de le réfléchir, puis après ça, là, tu peux dire « oui, ok, voici ». Puis comme Mikey dit, d'avoir des fois 2-3 sens dans ton logo, un travail en profondeur. Ça, je pense pas que le graphiste en aide à 5$ pour pouvoir te rendre ça. À moins que toi, t'as une vision très claire de ce que tu veux avoir, puis que tu y fasses faire ça, mais... Pourquoi j'ai payé 1 500 $ déjà pour un logo, c'était tout ce travail-là, dans le fond, que l'entreprise a fait, que tu n'auras pas pour 5$, c'est certain. Mais quand tu démarres pour commencer tes activités,
faut que tu lâches prise un logo un peu, à 5$. Tu saches que ça va venir plus tard. En plus, quand on démarre, on n'a pas tout à fait la vision claire de notre entreprise, de où qu'on s'en va, de qu'est-ce qu'on est exactement. Donc, ça vaut la peine des fois d'attendre puis de dire peut-être que...
Le nom de l'entreprise peut changer. Tu peux changer d'après 1 an, après 6 mois. Dire, finalement, ce ne sera pas ça pantoute, mes clients ne seront pas ça.
Mon logo de Nibiti, ça a pris... je l'ai fait faire peut-être à la 4e année environ. Et la version actuelle, mais c'était tout dans la finition des lettres. Surtout ça a été dessiné à la main, donc c'est vraiment la finition des lettres. On est vraiment parti de quelque chose de plus cartésien pour quelque chose de plus artistique pour définir la créativité, l'humain derrière ça. Puis, c'est ça, les gens accrochent, mais c'était toute la lisibilité aussi des lettres puis tout ça. Mais ça a été long, là. C'est vraiment beaucoup d'apanage.
Mais de plus en plus, on sait que ça coûte moins cher faire des
c'est
logos.
Ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que les gens, quand tu retournes, ça avait fait une grosse discussion dans le groupe. Il y en a plusieurs qui s'insultaient entre eux comme de quoi qu'on respectait pas le travail du graphiste en allant sur des sites moins chers et tout ça. Donc, il y en a d'autres qui disaient, ben là, tu prends Word puis tu plaques ça là-dedans. Il y en a d'autres qui disaient ça, puis il y en a qui se sentaient insultés en tant que graphiste de lire ces commentaires-là. Comme vous, je suis vraiment entre les deux, dans un sens que je comprends très bien. Il y a le bas niveau. Le bas niveau, là, c'est vraiment prendre Word, puis s'arranger avec ça. Ça, c'est mon très bas niveau. Là, je conseille pas à personne. Mais il y en a d'autres. Fiverr, je peux comprendre pourquoi les gens l'utilisent, tout ça. Mais faut pas critiquer les gens à cause de ça. Ils ont des raisons. Là, mais si tu prends Fiverr, mais là, plus tard... tu vas peut-être changer pour quelque chose qui te ressemble plus, mais bon, si c'est simplement de commencer à quelque part là, avec le budget qu'on a. Donc, ça avait été pas mal une discussion qui avait fait
C'est sûr
gros
que
débats.
Si dans le groupe, tu sais, il y a des gens qui sont graphistes puis qu'eux, ça vient vraiment jouer dans leur porte-monnaie
ouais,
de se faire dire ça, je comprends qu'ils seront pas de bonne humeur par rapport à
non,
ça.
Moi
là.
Aussi, je serais pas de bonne humeur. J'étudie en graphisme puis j'ai énormément de respect.
Mais c'est
mais
la réalité
sens,
quand même.
Comprends.
Faut pas se mettre la tête dans le sable non plus puis dire que ça existe pas. Ça existe puis on va en avoir de plus en plus. Maintenant, comme graphiste, ce qui te différencie, c'est ta créativité, c'est ton art justement. C'est un peu ton travail aussi d'être capable de mettre ça de l'avant pour dire voici pourquoi vous devriez payer 5, 6, 700, 1000$ pour un logo, peu importe combien vous chargez.
Puis Marie parlait de positionnement tantôt, de où qu'on est rendu, de comment qu'on veut dégager ce qu'on veut dégager aussi. Donc, c'est sûr que la première année, ben on sait pas trop vers où qu'on s'en va, mais après, par rapport à certains compétiteurs, comme tu dis, surtout si tu vises des plus grandes entreprises, ben oui, là, ça devient une certaine importance. Là.
Il y a des entreprises qui ont ça aussi dans leur ADN corporatif, de revoir les logos de façon fréquente. C'est pas toujours parce qu'il est qui est refait qu'on repasse dessus qui est plus beau. À un moment donné, il faut faire attention aussi parce que c'est un peu notre image qu'on projette. Si les gens sont habitués de voir un logo rouler puis qu'on le change du jour au lendemain, on perd un peu cette fameuse valorisation-là du branding là, qui est dur à évaluer combien ça vaut ta notoriété parce que ton logo, ça fait tant de temps qu'il roule puis qu'il est connu. C'est sûr que ça pourrait être une autre des raisons pour lesquelles on pourrait dire avant de dépenser beaucoup d'argent pour concevoir un logo, je vais attendre d'être sûr que mon entreprise, c'est vers là qu'elle se dirige. Là.
Puis dans le fond, le logo, des fois, les gens vont être imprégnés d'un logo, d'une image. Et puis dans le fond, quand on regarde cette image-là, elle veut peu dire, mais l'entreprise derrière s'est tellement démarquée par ses actions oui. que... ça a plus d'importance.
Ouais. Ah ben on s'entend que ça reste un logo là. Il y a bien d'autres affaires qui sont importantes, mais souvent ben c'est le premier point de contact avec l'entreprise aussi. Les gens voient ça circuler avec les réseaux sociaux. On s'entend qu'on en voit passer des logos dans une journée là. La publicité, on est vraiment exposé à ça partout. Est-ce qu'on regarde? C'était quoi Kim les autres commentaires qui ressortaient du groupe?
Ben ça tourne pas mal autour de ça. Les gens justement, on a reçu des messages en privé. J'ai même été obligée de retirer certaines personnes parce que ça allait
mon Dieu.
Un peu trop loin. Il y avait vraiment un manque de respect dans les commentaires. Mais je pense que la vie était pas mal divisée, tournait pas mal à qu'est-ce qu'on vient de dire. C'est sûr que le bas de gamme, mais il y a toujours un moyen d'avoir de quoi qui est correct pour démarrer, comme Fiverr ou quoi que ce soit. Pour bien démarrer.
On peut pas être même moins cher que 5$. Moi, ce que j'ai vu comme commentaire sur le groupe, puis ce que j'entends dans mon entourage souvent, c'est ben c'est pas parce que tu payes 5$ que tu vas être content. Des fois, il va falloir que tu te rendes à 20 logos différents à 5$ avant d'être content. Mais il y a une question aussi de toi, es-tu capable de communiquer au graphiste en Inde ou peu importe qu'est-ce que tu veux avoir? Parce que tu sais, la vision artistique, c'est pas tout le monde qui a de sortir ça de son cerveau puis de mettre ça sur papier. Là.
T'abordes un très bon point, justement. Si t'es capable de communiquer exactement ce que tu veux, ça change un peu la donne. Que si tu sais vraiment pas qu'est-ce que tu veux, puis tu garages, ben même faut un logo pour mon entreprise, ben là, c'est là que ça devient plus critique parce que tu fais travailler la personne. C'est là qu'il va coûter cher.
Je suis convaincu que les graphistes, c'est pour ça qu'il y en a qui chargent cher pour des logos parce qu'ils savent très bien que leurs clients va être un paquet de troubles à gérer puis ça tu sais t'en finiras plus. Faire un logo c'est une chose, en faire 20 avant d'arriver à un résultat c'est une autre chose. Faut respecter le temps que les graphistes mettent là-dedans, mais ça encore une fois c'est aux professionnels, c'est aux graphistes à être capable de sortir l'information en questionnant bien ton client. En tout cas c'est mon point de vue.
Ben oui, mais ça demande une certaine réflexion. Il y en a qui ont vraiment une grande préparation autour de ça pour trouver l'élément wow. Donc ils vont poser plein de questions, puis ils vont avoir les bonnes réflexions aussi à donner aux clients, de là jusqu'à demander les valeurs de l'entreprise, la personnalité qui les démarque, juste pour vraiment trouver la bonne raison, puis qu'il y ait vraiment un attachement à cette image de marque là puis c'est pas juste un logo aussi. C'est les fichiers que tu remets, les déclinaisons de cette image-là, c'est de penser à comment qu'est-ce qu'on va afficher comme une compte sur Facebook, qu'est-ce qu'on va afficher sur les bannières et tout ça. C'est toute une image de marque que les graphistes ont. Donc quand on parle d'un travail de base avec qui on va vous remettre un logo ou une signature de base, mais sans nécessairement vous donner toutes les fichiers éditables, noir, blanc, couleur, transparent. Donc, c'est tout ça que les gens, quand on passe à un autre niveau, ben c'est à peu près ça tout.
Ça, c'est une belle façon de se faire avoir aussi. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait faire des logos à 5$. Tu penses que ça vient avec toute cette panoplie-là de logos, mais oublie
non,
ça. Souvent, tu as une petite version JPEG pas trop chère. Ben, ça, faut que tu repayes plus cher pour avoir justement, la version transparente, etc., etc. Fait que tu t'en tires jamais pour 5$. Là. C'est ça, c'est une illusion. Là.
Mais parce que ça demande du temps de faire ça.
Ça me fait penser un peu le parallèle que je fais avec les photographes. Si tu veux avoir un photographe, je sais pas, tu peux en trouver un pour 100$, 200$, va venir pas te prendre des photos professionnelles, mais si tu dis le mot mariage, cherche un photographe de mariage, ah là, c'est 500, 600, 1000$.
Oui.
Pourquoi? Parce que le photographe sait très bien que le marié vont être des clients plus difficiles à satisfaire parce qu'il y a du stress qui rentre en ligne de compte, t'as pas beaucoup de marge d'erreur. Moi, je pense que le logo, c'est un peu similaire. Les attentes sont tellement élevées, l'entrepreneur, il veut que tout soit parfait, que son logo, là, soit, tu sais, qu'il soit hot, qu'il fasse jaser, que le monde dise des bons commentaires dessus, qu'on s'en rappelle. Fait que justement, t'as cette pression-là.
Le fameux M du McDonald's.
Le swoosh de Nike, tu sais, bravo. Non, mais tu sais, puis il y a du monde hyper créatif là-dedans.
Oui.
Là. Ben, tu parles de McDo. Te souviens-tu quand ils ont fait la pizza chez McDo?
Ah, ça fait longtemps.
Je me souviens de Donald Pilon, moi.
Oh my God, oui, il était déguisé en homme sandwich. Mais le graphiste, vous tapez pizza McDo là, dans Google, là, c'est le Z de pizza, c'est le M de McDonald's qui était juste...
Oh, oui. Fallait y penser.
Fallait y penser, oh, oui. Tabarouette. C'est un génie, la personne qui a pensé à ça. Là. Mm. Le logo Nike, le Swoosh, c'est des génies derrière ça qui ont créé ces logos-là.
Dans l'image, dans l'identité visuelle des entreprises, il n'y a pas juste les logos, il y a les couleurs aussi.
Oui.
Il y a des couleurs qui sont déposées. Je pense à Tiffany, qui a une espèce de turquoise.
Oui.
Et ça, tu ne peux pas utiliser ça sans avoir le consentement de Tiffany. UPS, qui a son brun caractéristique. Vraiment, c'est...
Non, mais attends, là, tu parles qu'ils ont comme mis un genre de...
C'est une couleur déposée.
Sur la couleur?
Oui, oui. C'est un copyright sur la couleur. Tu n'as pas le droit d'utiliser le brun de UPS. Oh oui, c'est
ça,
spécial.
En plus, ça vient avec une charte en tant que telle. Là. Comme tu dis, on n'a pas le droit d'utiliser telle couleur, pour sur telle couleur aussi. Tu n'as pas le droit de... Si ça va plus loin, il y en a qui vont
mettre vraiment un guide. Des normes graphiques.
C'est
oui,
ça, les normes graphiques. Tu dois utiliser tel format. Tu dois pas décliner... de telles choses. Donc, tout ça, quand on parlait aussi de documenter les processus, on revient à ça. Mais là, on documente l'utilisation du logo. Donc, les prochaines personnes qui doivent l'utiliser savent exactement comment l'utiliser. Mais ça, c'est les grosses marques, McDonald's,
l'entrepreneur
justement.
L'entrepreneur en démarrage, ça, c'est vraiment le top, là. Pour une charte graphique d'utilisation de son petit logo à 5$.
C'est là. Ça. Là, on va plus loin. Fait quand on pense au travail qu'il y a derrière ça, on le voit, là, on en a parlé. Je pense que les gens sont plus conscients que c'est pas juste... une image qu'on vous remet, l'image qu'on vous remet, mais vous allez avoir en format JPEG ou en format non éditable qu'on appelle, mais pour avoir la format éditable, pour avoir d'autres formats que vous allez pouvoir décliner partout sur vos réseaux sociaux, sur vos courriels. Donc tout ça, ben c'est là que on y pense pas, mais ça, c'est tout le processus qui est derrière ça.
Et
ça
peut, oui, allez-y.
Ça peut devenir aussi une exigence. Moi, je sais bien que quand je donne des conférences ou des formations, des fois dans des événements publics, on me demande mon logo.
Oui.
Et si je n'avais pas, je serais dans le trouble parce que on m'affiche sur les sites internet et tout ça. Donc ça me prend mon logo et pas le logo à 5$ sans déclinaison. Donc ils me demandent des spécifications très précises que seul mon graphiste a pu faire. Là.
C'est ça, effectivement.
Ça en prend un graphiste pas loin dans nos
ça
projets.
En prend un. C'est pratique d'avoir un deck en graphisme.
Je suis tombé sur le guide des émotions qui sont reliées à des couleurs. Si vous avez des choix de logo à faire, je vais vous en faire une petite déclinaison. En fait, j'en ai sept à vous nommer.
On va essayer de deviner.
Ben ouais, c'est bon. OK, c'est bon ça, Mikey. Si on y va avec le jaune...
Moi, je dis que c'est l'intelligence.
Le jaune, comme on peut penser au logo comme Best Buy, Shell, Subway, c'est des couleurs jaunes, Sprint, McDo. Le jaune revient. Toi, tu dis l'intelligence, Kim? Tu penses quoi du jaune?
Ben, moi, c'est plus rayonner, briller.
OK.
Le côté pétillant, le pep.
Ouais.
C'est bon. Alors, l'optimisme revient en premier.
Oui.
La clarté, la chaleur, donc c'est ça qu'on veut véhiculer avec le jaune.
OK.
Si on passe au orange, on peut penser à des marques comme Crush, Orange Crush, là, Fanta, Mozilla pour les amateurs de Firefox, Amazon.
Le confort.
C'est bon.
Moi, je sais pas, ça, l'orange, au niveau professionnel, a comme une connotation.
Vous l'aimez pas?
Plate, ouais.
Ah ouais, hein? Harley Davidson, vous n'êtes pas amatrice d'Harley.
Moi, mon logo est orange.
Ouais, mais.
Merci beaucoup, Marie.
Alors, c'est tout le temps qu'on avait avec Marie Laberge. Ton logo,
non,
Kim,
moi,
il n'est pas orange.
Pour, le côté dynamique, le côté orange, je trouvais que ça faisait chaleureux aussi.
On dit du orange que c'est une couleur justement friendly, donc
oui, c'est ça.
Chaleureux, une couleur aussi qui va être pétillante, qui va amener à la confiance, qui va faire porter confiance.
Ah, okay? C'est okay. Bon.
Qu'est-ce que vous pensez du rouge?
Ben, on peut penser à amour, passion.
Acheter sans réfléchir.
Alors, des marques comme Coca-Cola, Kellogg's, Kmart, Nintendo, hein, c'est des marques avec du rouge.
Il y a du rouge dans mon logo.
Alors, Kim, c'est le temps de te venger, si tu veux dire.
C'est ça.
Non, c'est l'aide rouge.
On dit l'excitation, le rouge, c'est pétillant. C'est une couleur jeune aussi, c'est ce qu'on dit du rouge. Donc, si c'est des valeurs que vous voulez laisser passer sur votre entreprise, allez-y avec ça. Okay. On passe au mauve.
Luxueux. Le mauve, c'est vraiment luxe.
C'est vrai que ça fait riche.
C'est vrai.
Je vois tout de suite un écrin de bijoux, tu sais, dans un. En tout cas, le recouvrement, je sais pas pourquoi, le recouvrement de l'écrin du bijou, il est mauve.
Je pense à la fashion, mode.
Ouais, ok,
ouais,
c'est bon
mode,
ça.
Ouais, fashion, oui.
On peut penser à des marques comme Yahoo, Barbie, Welsh, Hallmark, Taco Bell. Alors, la créativité, c'est le premier mot qui nous vient quand on parle de mauve. L'imagination, le côté futé aussi.
Ah, ouais, ah
c'est
futé, ouais.
Associé au mauve. Le luxe, c'est pas là, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça fait prestance.
Oui, prestige.
On y va avec le bleu.
Neutre, pain. Je voyais la boîte, le logo de la boîte à pain, mais c'est pas vraiment
un noir bleu, et blanc.
Mais
moi, je reviens avec mon...
Parce qu'il y a plusieurs logos dans le mur qui nous entourent en ce moment.
Ils sont
donc,
tous noirs et blancs.
Pain. je voyais pain.
Je reviens avec mon idée de confort. Là, c'est vrai, là, t'es sur un nuage.
Ouais,
là, t'es bleu,
salon,
t'es dans le ciel. Tu sais.
Bois, grange, gars.
Ah, moi, je pense à froid ou produits congelés.
Ah oui, c'est vrai.
C'est
ben
fou,
oui.
Hein?
Non, moi, je pense à bleu avec produits
Alors,
congelés.
On peut penser à des marques comme Dell, AT&T, HP, Oral-B, Walmart. C'est des couleurs bleues qui sont mises à l'avant. Pfizer aussi?
Ben oui.
Tes petites pilules. Merci d'ailleurs. Alors, la confiance, c'est le mot qui résonne le plus avec le bleu. C'est une marque qui est forte. C'est une marque qui est fiable également. Donc ça, c'est les trois mots qui définissent le bleu.
Bon, là, je dois avouer quelque chose, là. Moi, j'avais entendu brun et non bleu.
Ah!
Kim, tu...
Mais moi, je lis sur les lèvres, François. Oublie pas.
Bleu,
oublie de
brun.
Ton micro.
J'ai mon micro. Quelle couleur?
Il est orange.
OK, je te testais voir ça.
Alors, je m'excuse avec mon pain parce que j'étais loin de la plaque.
Je me demandais pourquoi que tu nous parlais de pain. Si ton pain est bleu, change de pain.
change de boulanger.
Le vert.
Vert. J'ai bien entendu. Gazon, air pur, vacances, plein air.
Écologie,
oui.
Fraîcheur.
Ah, c'est bon. Alors, on pense à des marques comme John Deere, BP, Monster.
Oui, mais il faut dire que John Deere n'a pas bébé le choix là, d'être
mais
vert.
BP, c'est un peu questionnant.
Oui, effectivement.
C'est probablement un
c'est...
choix
ouais,
stratégique.
Stratégie.
Alors, on pense à la paix d'esprit quand on pense au bleu. On pense à la croissance, à la santé. Donc, c'est des mots qui reviennent...
Au vert.
Oh, j'ai-tu dit bleu? Ouais, c'est moi qui est colorblind. Allô? Je pense à pain. Et finalement...
Je pense à faim, François.
Oui, le argent.
Fin, non, c'est vrai.
Couleur argent. Silver.
Luxe encore.
Luxe, OK.
Oui.
Pain.
C'est ça.
Ouais, pain doré, cacaillette.
Alcan,
ben oui, ben oui.
Argent.
Mais ouais, c'est...
Ça
c'est,
fait penser à quoi?
Ça peut pas être autre chose que luxe, là, à part l'or aussi, mais l'argent aussi. Là.
Alors, on pense à des marques comme Wikipédia, Apple, Honda, donc c'est des marques qui ont souvent du argent.
Classique.
La balance, l'équilibre, le calme, c'est neutre, donc c'est ça qu'on veut aller dégager. Et ça, c'est toutes des choses que à 5$ sur Fiverr, on vous dira pas, mais qu'un graphiste professionnel va vous dire.
Fiverr, c'est comment ça se passe exactement? Si on peut, tu peux nous expliquer quand on arrive sur ce site-là, qu'est-ce
ben
que les gens doivent faire exactement?
Ça s'appelle Fiverr parce que c'est comme Fiverr.com, c'est un site américain, je pense que ça part de là. Dans le fond, ce que le site fait, c'est qu'il met en contact des travailleurs autonomes qui sont chez eux, tout seuls, dans leur sous-sol, puis qui cherchent des clients, et met des clients. Et c'est pas juste des logos qu'on peut faire sur Fiverr.
Ah non?
Il y a toutes sortes d'affaires. Mikey, si t'as envie d'avoir un jingle...
Ouais.
Tu sais, mettons un jingle avec quelqu'un qui chanterait en mandarin, que Mikey est le meilleur metteur en onde et co-animateur de la station, ben tu pourrais te faire ça en mandarin sur Fiverr.
Hey.
Tu peux tout faire sur Fiverr. En fait, la seule limite, c'est ton imagination. Oui, il y a beaucoup de logos qui se font là. Il y a même des gens qui peuvent outsourcer de la programmation. Si vous avez quelqu'un qui veut, que vous avez besoin pour faire de la traduction, écrire des trucs pour vous.
Mais je suis en train de me dire, s'il y a des gens qui sont prêts à inventer des trucs et à faire même de la programmation qui peut être un gros travail pour 5$ seulement.
Ouais, ben là, c'est ça, on s'entend. Exemple, parlons de la programmation. Mettons, vous avez un site WordPress, OK, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire un peu de mise à jour sur votre site. OK, mettons qu'il y a un bug. Alors, pour 5$, vous pouvez avoir accès à un programmeur, OK, qui va aller régler votre bug sur WordPress. Sauf que pour 5$, il va régler un petit problème de WordPress. Si ça dépasse, puisque c'est plus dans les normes du petit problème, là, il va te charger plus cher. Il va te charger 20 ou 120$, dépendant de c'est quoi ton problème.
Pour toutes les modifications, il te rajoute un prix.
À toutes les fois, après ça, tu rajoutes, dans le fond, des upgrades à ton, okay, à ton truc. Alors, l'exemple d'un logo est là. Donc, pour 5$, si vous avez besoin de vous faire faire un logo, vous allez voir des exemples. Mm-hmm. Il y a des exemples à n'en plus de style de logo différent. Vous allez prendre un, mettons que, je sais pas, le graphiste vous donne 20 choix de logo. Donc, parmi les 20, vous allez choisir, puis il va adapter ces 20 logos avec le nom, le branding de votre entreprise. Donc, ça, c'est pour 5$. Si vous voulez avoir des retouches, après ça, on va rajouter des sous. Si vous voulez avoir le fichier vectoriel, on va rajouter des sous. Donc, tout ça, on le rajoute. Mais il y a tellement de choix. Allez-y magasiner là-dessus, ça va vous donner des idées. Bon, dépensez
mais
pas.
En même temps, sur Fiverr, ça ne doit pas être le logo du siècle aussi. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il soit copié ou inspiré de
c'est
d'autres choses.
C'est sûr que tu n'auras pas l'exclusivité, je te l'assume. Alors, mais allez faire un tour, ça peut vous donner des idées. Marie Laberge, merci de ta participation à l'émission. Ça a été très agréable. Kim Auclair, good job!
High five!
Pew! High five!
Avec du pain!
Fiver avec du pain! Mikey G à la mise en onde, merci.
Tellement le fun que tu sois venu.
Ah, finalement, hein? Je vais revenir. Puis on salue nos amis de CLS à Victoria aussi.
Il avait peur d'être avec moi tout seul, je pense.
J'étais un peu intimidé.
Il m'a appelé en backup, en panique. Bonne semaine, c'est KRL. Bien content de vous avoir avec nous en mode gougoune et on vous revient mardi prochain à 5h30, là, pas 5h33.
Non, non.
5h30 mardi prochain, c'est un rendez-vous. Et d'ailleurs, je serai pas là, Kim.
Je sais.
Tu vas animer toute seule. Fait que bonne chance, puis on s'en reparle l'autre semaine. Et Mikey, on va avoir besoin de toi en renfort.
Bon, je vais être là.
Ciao!
Bye!
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.
Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix est simple.
CKRL.
Québec.
Nights in white satin, never reaching the end.
Après des années de silence.
En juin, voyez au cinéma Le Clap, Tana dès le 2 juin, Megan Levy dès le 9 juin, Un sac de billes dès le 16 juin, L'embarras du choix dès le 23 juin et Baby Driver dès le 28 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Spectacle audacieux, 5 pays, un grand parcours déambulatoire, 13 chantiers construction artistique, un bar éphémère festif et des activités satellites passionnantes, le Carrefour international de théâtre, nourrir l'imaginaire. carrefourtheatre.qc.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale.
Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative.
Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles.
La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive.
Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le samedi 10 juin, la Maison de la littérature vous invite à la grande fête des voisins. Vous êtes tous bienvenus. Au menu, L'avenir dans les spaghettis par Madame Irma et Conte de Francis Desilets. Prescription de lecture et livres dans le parc, visite guidée de la maison, concours Instagram, maquillage, bricolage, jeux et gâteries sucrées et de nombreux prix de participation.
La grande fête des voisins, le 10 juin, à la Maison de la littérature. D'ici là, continuez à écrire sur les cartes postales pourquoi vous aimez le Vieux-Québec. Venez découvrir le plus grand bazar citoyen de Québec. Les résidents du Vieux-Limoilou prendront d'assaut les ruelles du quartier pour vendre et échanger des objets en tout genre, des petits et des grands trésors. Prestations musicales, théâtrales, zones artisans dans la cour de l'école Saint-Fidèle, bazar des citoyens et bouffe de rue animeront Limoilou. Le grand bazar des ruelles, samedi 10 juin, dès 8h. Une présentation Limoilou en vrac. L'événement est remis au lendemain en cas de pluie.
Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de la crème antifongique Champignac. Avec la crème antifongique Champignac, faites un pied de nez à votre pied d'athlète. La crème antifongique Champignac, la référence en pied d'athlète depuis plus de